Je vous présente Philippe de Jonker, qui est le type encombrant à ma droite, qui est le webmestre. Je ne vais pas lui filer un micro, sinon je ne pourrais plus le faire taire. Il aura après son micro, pas déconner. Le webmestre de desordre.free.fr. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de le visiter. Si ce n'est pas le cas, je vous y encourage. Ça commence. On va commencer par causer de moi, là, un peu. Après, désordre, hein. Quant à moi, je dirige le site Le Terrier. Alors, il y a une petite erreur d'intitulé, ce qui est probablement de ma faute. J'ai soumis à Madame Chaplin un texte tellement flou que je suppose qu'on pouvait me foutre à peu près dans n'importe quel atelier. Mais entre-temps, le titre a été pris, j'avais dû être mis dans l'atelier. Pendant ce temps-là, moi, j'écrivais mes trucs et du coup, c'est complètement hors sujet. Donc, ceux qui veulent entendre parler de mise en forme vont être un petit peu déçus, je crois. J'y parle de quoi ? Je parle d'autre chose. Alors, peut-être que Philippe va rattraper le coup en vous parlant authentiquement de problèmes de forme, d'écriture. Enfin, on devrait s'en sortir du mieux qu'on peut. Philippe, vous avez appuyé sur le machin
pour enregistrer ou pas ? Jamais que des indications.
Hein ?
Non, mais c'est le cas d'à peu près tous les ateliers.
Oui, voilà.
Comment ?
C'est le cas d'à peu près tous les ateliers.
Oui. D'accord.
Non, ça, c'est
très bien.
Pas un souci.
Alors, je vous ai écrit un texte. Je vais essayer de vous rendre le moins rébarbatif possible. Sachez que si vous souffrez, pour moi aussi, c'est douloureux. Donc, quoi d'autre ? Voilà, donc je ne vais pas vous communiquer un texte. Contrairement, là aussi, à une petite erreur d'intitulé, je ne suis pas un communicant. Je suis bien incapable de faire ça, je n'en ai pas le pouvoir. Donc, je vais plutôt vous lire un texte. On est dans le discours, pas dans la communication. Je commence par une petite citation d'Orson Welles. Tout ce qu'on t'apprend à l'école, c'est des conneries. Quand les usagers précèdent les ingénieurs ou couvrent leur voie dans le tissage des métaphores, il y a de fortes chances de rencontrer dans chaque pile électrique une fée clochette. L'inaptitude à localiser et quantifier un système d'objets pourtant localisables et quantifiables, le rapport superstitieux à l'inframince numérique encouragé par les marchands de jetables appelés portables et de menottes électroniques appelées solutions clés en main, et le puits d'irreprésentation qu'entraîne l'abolition des délais, toute cette opacité entretenue pour la stupéfaction quotidienne d'un lot grandissant de cybercornichons fait trop vite supposer une virtualité à des objets dont le déplacement est plus sensible et même plus aisément intelligible que les lieux de transit, c'est vrai. Pourtant, le réseau ne ressortit pas du virtuel, mais de l'actuel. S'y émiettent les conventions qui, dans la vie sans souris, gèlent le flux du désir avant l'actualisation. Le réseau est le lieu et le temps de l'actualisation et de la propagation, par exemple, des discours psychotiques, que tout arrête en dehors de lui. Rien ne réfrénera cette actualisation dans un dispositif qui est l'écho du corps sans organe, du corps morcelé, dans le lieu duquel part la parole, et si apparemment disjoint de l'incarnation. Là où le discours n'est préparé ni retenu par rien, précédé d'aucune autorisation ni interdiction. Puis, dans l'indifférenciation hiérarchique des discours, ceux-ci sont immédiatement dialectisés, là où les circuits extérieurs de la parole les conduiraient sinon au silence, du moins à la clôture dans le cadre clinique. Comme ceux des maîtres qui édifient la clôture, ils peuvent ne s'autoriser que d'eux-mêmes. Je ne suis pas trop rapide, parce que j'ai un débit des fois légèrement assommant, faut me dire. D'accord. C'est aussi cette disposition du réseau à l'actualisation qui anime l'intérêt des discours de la haine, de l'occultisme, des litanies doctrinaires, et c'est elle, inversement, qui fait négliger le réseau par ceux qui, s'en dépossédant trop vite, aveuglément, ne voient pas que l'autorité conférée par les rayonnages de papier où ils ont déjà bien assez parlé à leur goût est précaire et n'a plus cours ici. Ce désaveu des clercs, découragement ou immense lâcheté devant la nécessité de réédifier en ligne des balises qui sont si séculairement et solidement tracées pour eux ailleurs, risque l'irrattrapable, l'engorgement de la grande bande numérique par le délire et, bien pire encore, par l'équivalence absolue des données. Ce qui est vrai pour l'histoire l'est dans tous les domaines de l'activité humaine. Mais ce qui peut être une source d'inquiétude ailleurs a toutes les chances pour l'art et la littérature de mettre clairement en évidence ce qui, dans ce domaine, échappe à tous les instruments de mesure collectifs pour n'épouser que la topographie et le temps du sujet.
L'engorgement, la floraison, le désordre, le bruit sont des points marqués contre toute tentative de systémisation collective et noient un peu plus la sirène culturelle dans ses rêves de mélodie unificatrice. La concurrence des psychotiques n'a jamais empêché les écrivains de dormir. Et toute idée de pillage, de copie, de brassage, de trucage ou de faux n'effraie que les éditeurs qui s'arriment à ces fétiches pelliculaires qu'ils appellent des œuvres d'art quand ils ne font que signer pour l'auteur la fin d'un travail et le début d'un autre. Car là aussi, la continuité du réseau épouse la continuité de la création artistique, entérinant encore plus brutalement le quiproquo avec ceux qui trafiquent dans le discontinu, le collectif, le culturel. Le réseau est un lieu d'expression de la singularité, d'advention du sujet, et ceci jusqu'à la définition des opérateurs mêmes du système. Il est tout proche, le temps où chacun d'entre nous pourra être son propre serveur. Fatigué de courir après les hébergeurs adéquats, beaucoup d'artistes sont déjà passés du côté serveur, après avoir tâté au passage des illusoires fédérations. Pourquoi illusoires ? Alors là, il faut causer directement des communautés, plutôt du fantasme qu'elles représentent. Nous touchons là à la seule authentique virtualité du réseau, celle des communautés. La grande difficulté à établir des repères de visibilité, de crédibilité, puis d'autorité dans le jeu des discours simultanés a fait craindre à beaucoup la noyade, parce que les barrières formelles ne tiennent pas longtemps dans cet étrange domaine où c'est presque simultanément à l'écriture ou à la création plastique que l'auteur, peu importe qui il est et de quoi il se réclame, jouit du sentiment de voir un objet fini devant lui. Le lissage est généralisé. La maîtrise s'acquiert en 3 jours par un singe habillé et de toute façon ne signifie plus rien. L'outil n'est jamais vraiment entre les mains de qui il faut. On a vu il y a quelques années fleurir chez la boulangère percutée par le syndrome du traitement de texte les affichettes en couleur et 40 typographies pour vendre des beignets. En ligne, une forme inversée d'inadéquation a vu naître les portails irréprochablement maquettés, plus creux que des aphorismes de cyclistes, et les sites d'une lumineuse et généreuse invention aussi morne qu'un boudoir protestant. Ce sentiment de finalisation, immédiatement accessible et réalisable, est source d'ambiguïté. Cette consécration chimérique, apportée par les outils de mise en forme numérique dans tous les domaines, donne à une plaquette de MJC l'allure d'un document officiel, à un jingle de radio associative le son 32 bits d'un studio professionnel, à une page web un fantasme d'autorité éditoriale. Ce qui est une source d'autonomie extraordinaire pour les cellules de micropublication, condamnées jusque-là à l'amateurisme par l'aspect de leurs produits et la faiblesse de leurs moyens d'information, est aussi la condition d'un sentiment accru, de dérisoire, dans un univers où le vide est aussi bien présenté que le plein. Sont apparus ce qu'on a pu appeler des communautés d'intérêt, des portails littéraires, des sites thématiques, mais la production des panoramas et des objets du décor y est contributive, selon un modèle qui refonde du cloisonnement, qui entérine la solitude ontologique des sujets qui s'y ouvrent à la publication, à la production. Modèle d'agrégation hasardeux et pieux qu'on aurait tort de prendre de loin pour du ciment collectif. Un fétiche yombé dont les clous piègent des vœux disjoints, marquages rassemblés sur un socle trou noir des disparités de chaque cellule du village, de chaque corps dans chaque famille, que seul un anthropologue boulimique de généralité blanche peut prendre pour un objet collectif. Les limites de la cohérence conceptuelle entre les différentes couches de l'agrégat ne sont jamais autant mises en évidence que dans le modèle du copyleft, qui a bien du mal à faire éclore des œuvres de qualité. Justement, parce que ces modèles d'échange politiquement viables et défendables sont minés par des postulats collectifs qui souscrivent à l'imaginaire de la communauté internautique. Alors, je participe au copyleft, donc je suis en train de cracher dans ma propre soupe, mais je crois qu'il y a une bonne raison de mettre un tout petit peu en jeu ce à quoi on adhère de temps en temps. Mais là, je vous renvoie à un de mes articles disponibles sur le sujet. Il est dans les archives de l'autre monde. Alors voilà l'adresse, sevrino.free.fr, sevrino, donc sevrino.free.fr/archive au pluriel, et je crois que c'est index12.htm. Et là, vous trouverez un article justement qui s'appelle Ma contribution à copyleft ou une connerie de ce genre. Donc j'y parle des quelques œuvres que j'ai fait naître sous copyleft et des limites de ce processus de création artistique. Le terme de communauté s'y reprend abusivement pour flatter l'espoir de toutes les sociomancies. Pour sociomancie, j'éclaire rapidement par une petite note en bas de page que vous ne voyez pas, donc je vous le dis. J'appelle sociomancie, par exemple, Toute anthropologie qui considère qu'un village nègre avec un anthropologue dedans est encore un village nègre. Le terme de communauté s'y reprend abusivement pour flatter l'espoir de toutes les sociomancies d'y trouver, dans le réseau, enfin, l'instrument de mesure susceptible d'asseoir leur rêve de systématisation du collectif. Mais seules les communautés sont effectivement virtuelles sur le web. Seule la communauté y est interdite d'actualisation, parce que le temps du réseau est contrairement au sien continu. La communauté suppose une diachronie, une discontinuité. Le réseau est un espace de synchronicité des données comme des discours. La datation du réseau lui est extrinsèque, étrangère au fond. Elle est fragilement tributaire des analogies avec les référents extérieurs. L'antidatation y est inutile parce qu'elle lui est consubstantielle. C'est sa forme. L'archive et l'immédiat y sont simultanés. La question et la réponse, le projet et la réalisation. Le dialogue en ligne dispose de raccourcis qui réduisent à néant l'illusion du temps réel, comme celle de l'accumulation du savoir. Je suis en train de vous éblouir dans un chat sur un sujet dont j'ignore tout, mais dont une page de navigateur m'ouvre immédiatement les portes de la simulation. Tourne en arrière-plan de mon temps d'écriture trois dictionnaires en ligne, dont un de citation. Je n'ai pas la forme du clair, j'ai toutes les formes du continu. Ne négligez pas ce savoir. Il est juste un peu plus rapide que celui du thésard et ne s'encombre ni de ses organes, ni de sa morale. Ceci exige de fonder sur d'autres valeurs, sous d'autres éclairages, la notion d'excellence, de qualité, d'intelligence, de production. Finalement, grâce à la disponibilité infinie des zones de trucage, tous les trucages sont abolis ou n'impressionnent plus personne, ce qui revient au même. La continuité, la récursivité, ils sont verticales et horizontales. Verticale, la continuité instrumentale, qui associe dans le même mouvement du blog, journal en ligne dont vous parlera bien mieux que je pourrais le faire Philippe de Jonquière, qui est là. Donc, verticale, qui associe dans le même mouvement du blog, l'écriture et la diffusion. Verticale, celle qui s'étire de l'encodage HTML. Alors, j'espère que vous savez de quoi je parle. Il ne faut pas hésiter, si vous avez des problèmes purement techniques, comme je vais me référer parfois, de temps en temps, à des figures vraiment très repérables de l'écriture en ligne. Donc, pour l'HTML, si vous voulez savoir de quoi il retourne. Tout le monde sait de quoi il retourne ? D'accord. Simultané à la frappe, qu'aucune compilation n'interfacera jusqu'à la lecture par le navigateur. Horizontale, celle du newsgroup poème d'Olivier Vatez, qui déplie le courrier en trois volets que le sens chaîne, mais que la diffusion assimile dans une simultanéité spatiale, celle de la lisibilité dans le programme de lecture, et temporelle. Je vous décris rapidement la pièce, sinon on ne comprend rien du tout. Olivier Vatez envoyait régulièrement dans un newsgroup le forum art plastique, ce qu'il appelait des newsgroup poèmes. Ce sont des poèmes qui ne font que révéler le temps particulier de lecture et d'écriture des forums. Et l'étrange actualité, inactualité qui s'y développe. Le poème auquel je me réfère s'appelle « Pli selon pli ». C'est un envoi de trois textes, trois courriers, qui ont été écrits donc consécutivement forcément chez lui, mais envoyés simultanément. Le premier écrivait « Pli », le second écrit « Selon » comme une réponse au premier, c'est-à-dire selon le système de chevrons. Vous voyez de quoi je parle par rapport aux chevrons dans le jeu des courriers ? D'accord. Non ? Il est de coutume dans les modèles de courrier, ça j'en reparle un tout petit peu après, hein, que ce soit sur les forums ou dans les courriels. Lorsque quelqu'un vous écrit, ce qui vous a été écrit est précédé d'un chevron afin qu'on ne le confonde pas avec votre réponse. Et un double chevron signifie qu'on a fait un pas de plus dans l'avancée du courrier. Très bien. Donc le premier courrier c'était « Pli », le second c'était « Selon » qui était la réponse à « Pli » et le troisième était « Pli » qui était la réponse à « Pli selon ». Voilà. Et ceci a été instantanément lu sous cette forme par tous ceux qui participaient au forum. D'accord, où j'en étais ? Je suis paume dans mes conneries. Horizontale encore, celle du mode d'incrustation des réponses dans les différents supports de courrier. On y revient. Bah, là, je viens d'en parler, donc tout le monde voit ce truc. Hein. Cette figure est d'ailleurs isolément une source d'expression nouvelle de l'actualisation du texte, qui sans cesse réenchaînée à un possible commentaire est ainsi pris dans un continuum d'énonciation. On y observe une forme vivante de la citation, que seul l'ennui ou le sentiment passager d'en avoir fini avec le sujet peut arrêter, mais dont l'archivage suppose une mise en suspension continue et un espace prospectif ouvert, sans durée. Je me suis déjà trouvé dans la situation de répondre à des forums, à des questions qui avaient été laissées en suspens des mois auparavant par un des interlocuteurs. La fixation du texte en ligne a donné ainsi pour d'autres visiteurs un rétablissement illusoire de la conversation et son sens. On formalise ainsi un rêve d'exactitude qui piège le discours dans la responsabilité, qui renvoie sans cesse à la forme de l'énoncé, mêlée d'une étrange ventriloquie et d'un saccage formel qui fait habiter la parole d'un autre par la sienne. J'ai tenté d'illustrer ces propriétés appliquées à la récursivité narrative dans ma seconde participation à... Ah, il y est. Adam Project. À Adam Project. Mais là encore, c'est Philippe de Jonquière qui vous en parlera le mieux. Pourquoi ? L'immense avantage du statut des artistes sur celui des chercheurs, je dis ça parce que j'ai été présenté comme webmaster pour l'intervention, mais c'est en tant qu'artiste que j'interviens, je ne suis pas autre chose. Webmaster est juste une de mes façons de travailler comme une autre, et le terme ne me paraît pas très très judicieux. Donc l'immense avantage du statut des artistes sur celui des chercheurs étant que leur silence doit être entendu comme la forme la plus accomplie de leur discours, et qu'ils peuvent même abuser de ce privilège pour se donner des airs mystérieux ou pour ne pas s'expliquer du tout sur ce qui, en premier lieu, leur échappe. Donc, Philippe, à vous de jouer. Le forum, le groupe de discussion, le newsgroup ou encore la liste de diffusion font entrer le texte écrit dans le mouvement dialectique immédiat, le dialogue, la conversation. La déclaration figée par l'écrit, qui n'était garante, dans le cas de la citation par exemple, de rien de certain vis-à-vis de son auteur, ou encore l'assertion qui ne garantissait pas sa compréhension par le lecteur, sont soumises à la continuité, à une exégèse sans exégète, sans spécialiste, et sans date limite de vente, c'est-à-dire sans amnistie. Voilà que l'écriture y perd de la fixation du texte, voit se dissoudre à la fois l'inexpugnabilité de celui-ci, ce qui est le cas même pour du courrier familial, et l'autorité de l'auteur. Toute autorité y perd son assiette. Aucune convention ne peut suffire à protéger du questionnement, de l'irrévérence, du doute, du harcèlement. La roue libre expose des nudités, des paroles qui se lâchent, parce que précisément les codes usuels de la surveillance mutuelle et de l'autosurveillance sont mis en péril. Se plonge, avec une surprenante frénésie dans l'écriture des milliers d'internautes qui avaient depuis longtemps cessé d'écrire ailleurs, ou qui n'avaient jamais écrit, excepté pour remplir des chèques. Les usages de l'écriture en pâtissent et naissent spontanément d'autres usages barbares ou ingénieux, grotesques ou lumineux, inventifs ou généralement infantiles. Mais nous récoltons toujours au passage des renseignements précieux sur ce qui sépare une bouche de sa main et qu'aucun roman populaire n'avait risqué d'éclairer un jour. Sur les illusions tenaces qui arrimaient encore la langue écrite à l'oralité. Un écho, par exemple, de l'hypercorrection se glisse à un endroit où on l'aurait jamais imaginé. Fleurit l'hyperponctuation qui trahit dans ses enfilades de points d'interrogation ou d'exclamation celui qui n'est jamais assez sûr de l'expressivité de l'écriture tant elle lui a été jusqu'ici peu familière. J'ai un instant insisté sur ces pratiques extralittéraires de l'écriture parce qu'elles participent, plus court, j'y suis presque, parce qu'elles participent à l'élargissement considérable des outillages et des pratiques. Mais Philippe va pouvoir causer quand même. C'est important. Hein.
De toute façon, je veux dire, la séance se termine à 17h, donc vous utilisez le temps comme vous voulez, il reste un quart d'heure.
Oh, bah c'est super. C'est très bien, 5 minutes pour moi, je finirai avec brio, j'en suis
sûr. Ça dépend si vous voulez qu'il y ait un échange avec la salle ou pas.
Pas de courgette.
Ouais, bah, on verra. Ce que ça donne.
Pas de courgette.
Ou j'en ai pas de courgette. J'ai un instant insisté sur ces pratiques extralittéraires de l'écriture parce qu'elles participent à l'élargissement considérable des outils et des pratiques, parce qu'elles ouvrent aussi à une meilleure compréhension des spécificités de l'écriture en ligne.
Doucement, doucement.
Belles, comme des poèmes permutatifs en JavaScript, qui réifie des livres jusque-là très improbables, les inconsultables 100 000 milliards de poèmes de Queneau sur papier par exemple, comme des notes en bas de page intégrées au texte par l'hyperlien qui, simultanément, est le processus qui rattache et disjoint. Nous pouvons tenter d'ouvrir le code d'un battement numérique du temps de l'écriture et au passage éclairer d'un jour nouveau, celle que nous croyions jusqu'ici si bien connaître, au point que nous ne la questionnions plus. L'écriture automatique, par exemple, n'a jamais vu le jour qu'avec des machines et n'intéressera désormais, grâce à elle, plus personne. Et le cut-up est aujourd'hui une pratique douce, qui ne taille que du texte, sans pesanteur, complètement absorbée dans le mouvement du copier-coller. Le décloisonnement épistémologique vécu à la Renaissance prend une forme inattendue, dans un univers artistique où l'apparition d'une image tant dans un récit n'est plus un gadget surréaliste, mais un des moyens les plus courants d'étendre la fiction, où un lien sur un autre site complète un texte d'un apport encyclopédique sans à peine entacher celui-ci d'une greffure de deux mots. Reste désormais à nous atteler à des problèmes de définition. En ligne, la question « qu'est-ce qu'une page ?» trouve assez vite sa réponse. Mais en ligne, où se glisse la petite ponction de discontinuité qui, à chaque page, fait état de la lecture et la révèle furtivement au lecteur. Le réseau avait vu depuis longtemps apparaître, dès ses débuts en fait, des formes inattendues, légères jusqu'à la transparence du diarisme. Mais l'apport de logiciels facilitant considérablement la production de pages dynamiques a vu naître un nouveau type de diarisme instantané. Le blog, comme les poèmes forums d'Anne-Olivier Vatez ou les journaux photographiques d'Adam Project, propose des réflexions sur les différents temps du réseau et sur la notion d'événement dans une narration étendue. Le temps narratif de toute œuvre en ligne est, par la force des choses, assujetti à ces domaines temporels singuliers du réseau. Le temps du récit est avalé par celui du réseau. Une autre conséquence de l'écriture en ligne est évidemment le mode de lecture en ligne et les conditions extrêmement ténues dans lesquelles elle est vraiment possible. Ainsi disparaissent, pas à pas, les récits longs sous leur forme romanesque et renaissent feuilletons, chroniques et nouvelles, genre chéri du 19e qu'on avait vu peu à peu disparaître. Et surtout apparaissent les fictions fragmentaires qui s'émiettent, s'atomisent et se recomposent dans l'espace hypertexte. Toutes ces notes en vrac n'auraient guère d'intérêt si elles n'étaient éclairées par des œuvres qu'on dise bien plus long qu'elles sur les nouvelles modalités de l'écriture. Et c'est la raison pour laquelle, après vous avoir invité à découvrir, dès que vous pourrez vous connecter, les œuvres en ligne du Terrier, je vous convie à en apprendre un peu plus long sur le blog avec Philippe de Joncaire.